Nous allons, après cette première session, tenter de centrer la seconde sur des enjeux plus nettement, plus clairement constitutionnels. Et ces enjeux plus clairement constitutionnels, me semble-t-il, recouvrent plusieurs questions. Il y a la question du régime conventionnel et de cet argument qui est constamment utilisé par la droite pour, comme procès d'intention vis-à-vis des républicains. Puis il y a la question de la responsabilité ou de l'irresponsabilité du chef de l'État qui me semble centrale et qui est centrale pour plusieurs raisons. D'abord, en termes de fonctionnement du régime parlementaire dans une problématique relativement classique sur la question de la dose de pouvoir personnel susceptible d'être exercée par le chef de l'État, régime parlementaire dualiste. Philippe Beauvau a tout à l'heure commencé à aborder cette question. Et puis il y a également, et c'est une dimension je crois extrêmement importante dans la gravité de la crise, la dimension plébiscitaire, ce que Gambetta appelait la tournure plébiscitaire que prennent les débats, et le fait que MacMahon ait finalement invoqué sa responsabilité devant le pays, faisant de la dissolution une sorte de question de confiance directement posée aux électeurs, leur demandant explicitement de se rallier à lui en tant que président, ce qui, pour la gauche, rappelle des souvenirs extrêmement désagréables, pour ne pas dire plus, et leur semble totalement inacceptable compte tenu du passé très récent du césarisme plébiscitaire du Second Empire. Voilà, me semble-t-il, l'éventail de thèmes dont nous aurons à traiter. J'aurais volontiers commencé par poser une petite question, sans vouloir rouvrir la page politique de la session précédente, mais sur laquelle j'avais envie de poser, qui était, on a parlé de cette échéance de 1880, et du fait que, finalement, des gens comme Breuil considéraient que leur loyauté envers la République n'était pas forcément à temps complet, si je puis dire, enfin, en tout cas, était temporaire. Moi, il y a une question simple que je me suis posée quand même en lisant les débats, c'est est-ce qu'ils avaient une idée de ce qu'ils voulaient après ? Est-ce que c'était, on espère que le comte de Chambord sera mort d'ici là, et alors dans ce cas-là, une restauration monarchique serait possible ? Ou est-ce qu'ils avaient une idée précise derrière la tête, ou pas ? Parce que, me semble-t-il, ça affaiblit considérablement leur position, et la gauche peut assez facilement dire, vous n'avez pas de projet, Denis, d'ailleurs, le souligné tout à l'heure, vous n'avez pas de projet clair, vous n'avez pas de solution à proposer, et dans ce cas-là, pourquoi aller au clash à ce point si on ne sait pas ce qu'il va y avoir derrière. J'ai envie, avant qu'on aborde l'institutionnel, de poser simplement cette question historique, d'histoire politique.
Je crois que sur ce point, il y a une sorte de vulgate dans tous les manuels d'institutions et même d'histoire, disant on a fait le septennat, conçu d'abord comme un décennat, pour permettre que le comte de Chambord soit mort. Il avait 52 ans. Je ne veux pas, par rapport à la majorité d'entre nous, faire des prédictions. Mais enfin, ça me paraît quand même un peu rapide. Donc, c'est encore une connerie qu'on répète de manuel en manuel depuis 1873, en somme. Donc, en revanche, il est certain, enfin, il me paraît quasiment certain qu'en 1877, cette étape-là a été franchie et qu'il n'avait effectivement pas de projet. C'est-à-dire que je ne vois pas le duc d'Aumale, par exemple, chose comme ça. De toute façon, il y avait quand même bien un minimum de logique dynastique à respecter. Si ce n'était pas le comte de Chambord, c'était le comte de Paris, et ce n'était pas le duc d'Aumale qui était le seul qui pouvait prendre les choses en main. Il y a effectivement un vide que Guy Barranger a très bien souligné. C'est une aventure, hein, c'est une aventure mal partie et qui est due essentiellement à la précipitation et à l'énervement de l'évêque d'Orléans. C'est lui qui est la personnalité décisive dans cette...
Alors, François Chanel n'est pas d'accord. Oui.
On l'a beaucoup dit, on n'en a pas la preuve.
On n'en a pas la preuve.
Et, Et entre tous les évêques, dans la phase initiale, ce n'est pas celui qui était le plus sur une position ultramontaine.
Oui, c'était Monseigneur de Lannou, plutôt.
Voilà. Mais c'est un des points un peu aveugles de l'historiographie et sur lesquels il y a à faire. Il faut voir les archives romaines. Et parce que les historiens qui ont écrit sur cette crise n'ont trop souvent pas eu accès aux archives, en particulier des diocèses, qui ne se sont ouvertes que dans la période récente, et points sur lesquels il faut revenir. Mais n'oublions pas qu'il y a toujours Mac Mahon, qu'on peut très bien renouveler. Je voudrais, à la suite de ce qu'a dit tout à l'heure Nicolas Rousselier, rappeler que Mac Mahon, c'est la créature de Debreu. Il a réussi à faire l'unanimité du camp royaliste sur le nom de Mac Mahon, avec qui il n'avait d'ailleurs pas de lien particulier. Il ne se connaissait pas tellement en 1873. Il faut rappeler que Debreu a accepté de conduire la manœuvre contre Thiers, l'interpellation, qui a pris d'ailleurs Thiers par surprise, parce que Thiers était convaincu qu'il n'avait personne, qu'il ne ferait pas l'unité entre eux, faute de la faire sur un seul candidat, de pouvoir la faire. Or, ils l'ont fait sur Mac Mahon. Et donc, ils ont toujours cette solution qui, évidemment, nous paraît faible. Mais prenons garde tout de même de ne pas trop... écrire cette histoire à la lumière de sa fin et de l'échec. Nicolas aussi a eu raison de rappeler que ne reviennent 326 et non pas 363 les républicains, et ce qui a accentué leur victoire, c'est la suite, c'est les 76 invalidations, celle de Fourtou en tête. C'est quand même un processus qui ne s'achève pas en 77, qui dure jusqu'au printemps 79 pour que toutes les élections partielles aient lieu, et qui connaît une réplique immédiate très forte et qu'on oublie souvent, qui sont les élections cantonales qui suivent en novembre.
Pour l'élection du Sénat ensuite.
Voilà. Et ça, c'est un succès inespéré pour les républicains, dans son ampleur. Mais qui, évidemment, est cumulatif par rapport à celui des élections législatives. Donc, cette histoire-là n'était pas écrite au départ, et même la politique de Fourtou, la manière dont Fourtou a conduit cette campagne, a été en partie écrite à la lumière de l'enquête parlementaire, ensuite, de tout ce procès qui a été instruit.
Oui, le rapport Brisson.
Parce qu'au fond... il a, bien sûr, il y a eu beaucoup de révocations de maires, de conseillers municipaux, d'adjoints, jusqu'au plus modeste cantonnier, mais dans des proportions qui restent, je crois que c'est 4% des maires qui ont été révoqués ou remplacés par des commissions, enfin des conseils municipaux remplacés par des commissions nommées. C'est quand même pas un nombre extraordinaire.
Non, quand même.
Oui, mais non. Ça n'était pas si...
C'est pas une décoration.
Non, voilà. À Lévis, que vous avez cité tout à l'heure, prend un malin plaisir à rappeler que Littré lui-même, ensuite, a reproché aux Républicains d'avoir procédé comme un 16 mai, de la même façon, lorsqu'ils en ont eu les moyens. Donc, pour travailler sur les archives, en particulier toutes les dépêches envoyées par Fourtou dans les départements, aux préfets, on s'aperçoit qu'il a des précautions même extraordinairement, qui nous paraissent extraordinairement maladroites, qu'il est pris dans une sorte de légalisme, qu'il essaye de concilier ce qui est présenté évidemment à l'extérieur comme un abus dans des limites, parce qu'il faut voir qu'il est débordé par ses préfets. On a des cas très très clairs de rappel à l'ordre, c'est-à-dire qu'ils prennent des initiatives. Qu'est-ce qu'il a comme personnel? Il a des préfets de l'Empire qui font du zèle, qui font un zèle qui va très au-delà de ce qu'ils souhaitent, parce qu'il a bien conscience des risques. Et particulièrement, c'est très frappant dans sa circonscription, en Dordogne, où il veille, au moment de l'affichage, à ce qu'on ne fasse pas violence au maire de sa circonscription en leur imposant... il ne veut surtout aucune révocation de maire dans sa circonscription. Ça, c'est très frappant. Et pourtant, il sera l'un des premiers invalidés. Hein. Donc, il y a un aspect revanche, ensuite, qui a fait réécrire un peu l'histoire de cette campagne. Donc, Voilà, ce que je voulais souligner par là, c'est que nous ne devons pas céder à la tentation de croire que cette victoire, dans son ampleur, était acquise d'avance. C'est vrai qu'on est frappé en lisant la boulée de l'avertissement qu'il donne, et au fond, bien sûr, il a raison. Mais ça a été quand même plus serré, et tout n'était pas joué.
Je comprends ce que vous dites, pardon, Philippe. L'alternative, à défaut d'être monarchiste, parce qu'on ne la voit pas très bien, serait en quelque sorte une espèce de république entourée de méthodes plébiscitaires, grosso modo, avec Marc Mahon restant à la tête
de la République conservatrice.
De Breuil le caractérise, il dit on est, en gros, il faut qu'on soit un pays avec Tory et Whigs. On a un camp républicain, un camp conservateur et un camp conservateur dont il pouvait espérer qu'il sorte vainqueur des élections.
C'est vrai que l'équation MacMahon ne doit pas être sous-estimée. Bernanos écrivait de façon assez amusante qu'il était légitimiste par tradition familiale, un ami des princes d'Orléans, et qu'il avait servi l'Empire comme militaire, et que finalement il s'était rallié à l'idée d'un compromis, parce que ce compromis, c'était lui.
Alors, justement, peut-être qu'on peut partir de cette figure de MacMahon pour commencer à aborder ses questions de stabilité. Une chose qui m'a frappé, je ne voudrais pas trop parler, je crains de parler un peu trop, mais ça a marqué, mais une chose qui m'a frappé en lisant ces débats, c'est la façon dont les Républicains disent qu'il y avait un immense respect autour de la personne de MacMahon, qui personnifiait le compromis, qu'ils auraient voulu fondateur, parce que précisément il venait du monde... du camp hostile à la Révolution et pratiqué loyalement la République, vous avez brisé cela, je ne sais plus qui dit, je crois que c'est Léon Renault, vous avez brisé le talisman. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que MacMahon inspirait effectivement ces sentiments-là jusqu'à la crise du 16 mai?
Il semble bien que oui.
Mais parce que ça, c'est complètement oublié aussi, rétrospectivement. Oui. Hein, c'est que d'eau, mais à part ça...
Mais il faut peut-être pas... c'est vrai, mais c'est caricatural. Oui. Il y a les voyages, c'est une chose très intéressante. C'est le premier président, le premier, ça a été Louis-Napoléon Bonaparte. Ne l'oublions pas, en 1852, avant le rétablissement de l'Empire, qui a quelques voyages décisifs dans la préparation de l'opinion au rétablissement de l'Empire. Mais MacMahon est un président qui voyage beaucoup et souvent à contre-cœur, de plus en plus à contre-cœur. C'est-à-dire que, parce que ça ne se passe pas très bien. Il est pris à partie, où on crie vive la République sur son passage, ce qui est une manière évidemment de manifester la réprobation dans la campagne qui est en train d'avoir lieu. Mais il a un capital de sympathie dans l'opinion, et en tout cas, on entoure son image de beaucoup de soins, en particulier quand. Dans toutes les poursuites qui sont engagées pour les injures au chef de l'État ou au gouvernement, la surveillance des cafés, des barrés. Il y a aux archives de la préfecture de police tout un fonds, d'ailleurs extraordinairement riche, de graffitis qui ont été collectés dans les lieux publics, où on a pris soin, donc les policiers à Paris prenaient soin d'arracher et de conserver tous les graffitis où MacMahon est pris à partie. Donc on attache une très grande importance à l'image personnelle du chef de l'État. Ça, c'est très clair.
Armel,
oui, c'est difficile. Il y a beaucoup de choses à dire qui vont dans différentes directions et je ne sais pas toujours par quel point attaquer. On l'a un peu évoqué, mais je pense que c'est une chose assez étonnante que ce camp conservateur hétéroclite. Tout à l'heure, on parlait de l'importance de la question religieuse, et pourtant, le chef de cette coalition, le duc de Breuil, n'est pas un ultramontain du tout. Et les bonapartistes, à ma connaissance, ne sont pas spécialement ultramontains. Donc, des choses s'agrègent contre le camp républicain, le camp des républicains qui ne sont pas des républicains conservateurs qui, pour répondre à ton interrogation tout à l'heure, qui s'étaient ralliés au compromis parce qu'ils pensaient qu'ils arriveraient à fonder une république, on pourrait dire centriste, véritablement conservatrice, qui n'était évidemment pas tout à fait celle vers laquelle l'histoire amenait tout de même le pays et que défendaient des Gambetta ou des Ferry. Mais ce camp conservateur, au fond, il s'est agrégé en réaction, et l'art du duc de Breuil a été, en 73, d'arriver à ménager les bonapartistes pour renverser Thiers, pour voter le septennat partiellement, ou en tout cas s'assurer de leur neutralité, et puis ensuite les récupérer. Qu'ils soient débordés, et on voit bien que les interrupteurs sont quand même surtout les exaltés bonapartistes, quelques royalistes légitimistes, mais quand même plutôt des bonapartistes. Et alors, évocation maintenant de la question des choses qui ne sont pas ouvertes, effectivement, il faut s'interroger sur la construction intellectuelle et doctrinale de la crise du 16 mai, comme le 11 septembre 2001, ça devient un concept. Alors peut-être que ça mériterait aussi une étude de voir. J'avais remarqué en travaillant sur les théories du gouvernement parlementaire d'Esmain, le premier grand manuel traité de la Troisième République, il n'en parle pratiquement pas. Pratiquement pas. Chez Joseph Barthélémy, au contraire, c'est déjà plus présent, et comme il aimait l'anecdote politique, il en parle beaucoup plus. Et ensuite, il y a eu toute une série, ensuite il y a eu Marcel Prélot et son dictum de la Constitution Grévy, donc finalement, comme ceux qui écrivent les manuels ne réfléchissent plus, ils recopient et ressassent des choses qu'ils n'interrogent plus. Donc ça, c'est un problème. Mais de fait, parmi les choses très ouvertes et cette histoire du coup d'État, j'ai redécouvert en travaillant pour le séminaire, prenons conscience qu'entre le moment de la défaite électorale, c'est le 28 octobre, si je ne m'abuse, le deuxième tour, et l'arrivée de Dufort aux affaires, c'est 14 décembre. Donc déjà, ça fait plus de octobre, novembre, décembre, vous voyez, bon, c'est une longue période. Entre-temps, il y a le cabinet Rochebouette, et le duc de Breuil, qui, pour le coup, n'était pas un homme de coup d'État, et ça c'était clair depuis le début, il met quand même un certain temps avant de se retirer, et on a toute une période extrêmement riche. Bon, là, elle n'est pas dans notre partie documentaire, mais au fond, il faudra la détailler pour notre encyclopédie, d'hésitation, de tâtonnement. Que fait-on? On va se retirer, mais attention, on se retire en bon ordre. Il faut des gens pour répondre des actions de MacMahon. Donc Dubreuil parle de ça pour le maintien temporaire du cabinet. Ensuite, il y a différentes formules qui sont essayées. En dehors du cabinet Rochebouette, il y a aussi les tentatives d'autres combinaisons qui sont tentées, qui échouent. Donc cette période, c'est aussi intéressant à creuser. Je veux dire par là que Si on regarde ça avec beaucoup de recul, et c'est ainsi que les manuels souvent présentent les choses, on peut effectivement présenter de manière assez simplifiée la crise dans un conflit dualiste un peu classique. Et ce qui rend la chose aussi intéressante, c'est qu'en effet, c'est un peu plus compliqué. Il y a eu des hésitations. MacMahon n'avait sûrement pas l'idée d'un coup d'État en tête. Peut-être certains, près de lui, et notamment les bonapartistes, ne l'excluaient pas. On le voit un peu dans certaines interruptions. Il y a tout de même des mouvements de troupes à un moment qui font que certains soit agitent cela, soit peut-être certains excités ne l'ont pas exclu en se disant peut-être ils arriveraient à prendre de l'ascendant au sein du cabinet pour un coup de main, même si au fond tout ça avait tellement peu de chances de ça n'aurait pas marché à vrai dire. Mais ça a été commode pour les Républicains d'agiter un peu ce spectre. Il y avait peut-être pas un début de réalisation véritable, mais tout de même c'était pas complètement exclu. Si on avait quelque chose de comparable aujourd'hui, personne ne s'inquiéterait de savoir s'il y a un risque de coup d'État. Et en effet, on est quand même dans cette toute jeune république, on est au sortir de plusieurs décennies de convulsions qui fait que dans la France de l'époque, même si ça n'était déjà plus vraiment réalisable, et le duc de Breuil le sentait, on pouvait se dire, mais est-ce qu'il ne va pas quand même se produire quelque chose qui sort complètement des voies constitutionnelles? Alors, je réserve peut-être pour tout à l'heure, si on me redonnera la parole, sur la question constitutionnelle plus strictement, même si elle a déjà été un peu abordée, je ne veux pas monopoliser ici trop la parole, mais sur le débat constitutionnel en tant que tel, il y a encore d'autres...
Ah bien sûr, il y a beaucoup de choses dont il faut parler. Parmi les scénarios que tu évoques, il y avait aussi l'éventualité d'une deuxième dissolution.
Absolument, ça fait partie de
1830 bis, quoi. L'hésitation.
Et fort du progrès en siège du camp conservateur, au lendemain, certains se disent, bon, que peut-on faire?
Alors, bon, j'aimerais qu'on commence à se centrer un peu plus sur cette question de la responsabilité du chef de l'État et de cet enjeu de cette responsabilité invoquée, puisque, du coup, bien confirmant le respect très 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 large qu'inspirait MacMahon comme symbolisant la réunion des deux camps et la fermeture de la fracture initiale. Une fracture va se rouvrir très 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 rapidement dès que MacMahon va commencer à invoquer une responsabilité, sa responsabilité envers la France. Alors déjà, simplement, moi j'avais une ou deux questions très concrètes, c'est-à-dire que, ou est-ce qu'on sait ce qu'il a en tête, ou ce que ses conseillers ont en tête lorsqu'ils évoquent cette responsabilité envers la France? J'ai vu, et je ne suis pas assez expert de ces questions, de ces questions historiques, dans, je crois, un discours de Gambetta, Gambetta disant, très très vite après la lettre à Jules Simon, disant, ça veut dire une menace de démission de la part du président, en tout cas ça aurait été relayé par des journaux de droite. Est-ce que c'est vrai ou pas, par exemple? Et qu'en est-il plus globalement de cette espèce d'étrange alliage où on va avoir une invocation de la responsabilité qui est régulière et à peu près constante et qui a vraiment une teneur, enfin c'est un discours très plébiscitaire de type Second Empire, et en même temps une attitude où bah, sans cesse on va revenir en arrière en fin de compte. Maintenant au bout d'un moment on va dire je dissous, va poser la question de confiance, mais il va dire au bout d'un moment bah, en tout état de cause, quoi que soit, quel que soit le résultat, je ne partirai pas. Alors ça c'est pas du tout césariste, même si in fine la responsabilité il la fera jouer lui-même lorsqu'il partira en janvier 1979, ce qui est quand même là pour le coup effectivement à l'opposé de l'irresponsabilité classique d'un chef d'état de type constitutionnelle. Qu'en est-il de tout cela? Denis, tu souhaitais intervenir?
À la seule lecture des matériaux qu'on avait ce soir, l'intuition que j'aurais, c'est que MacMahon s'enferme dans une perspective de responsabilité morale. Et ce mot se retrouve dans un certain nombre de propos à la fois de ses défenseurs et de ses détracteurs. Et je dis qu'il s'enferme parce que je parle sous le contrôle de Philippe Reynaud, je trouve que c'est beaucoup plus un homme qui a une éthique de la conviction qu'une éthique de la responsabilité. Et assez fondamentalement, j'aurais tendance à trouver qu'il est mu par une éthique de la conviction, et qu'importe les conséquences à ses yeux, c'est pas un grand stratège, c'est pas un prince machiavélien, il agit, il dit toujours ce qu'il fait, il fait toujours ce qu'il dit, il fait pas de coulons douces, et au fond, il se bat sur des principes. C'est un peu quand même un personnage kantien au sens courant du terme. Il a des principes fondamentaux, il a une volonté bonne.
Il compose beaucoup.
Il a à ses yeux une volonté bonne, et quand on lui en fait trop, il finit par partir, même s'il dit au départ qu'il partira pas. C'est pas un général de Gaulle qui joue habilement sur la question algérienne ou sur la psychologie de l'armée pour arriver à ses fins à plusieurs coups au sens du jeu d'échecs. De ce terme, et je pense que cette invocation de la responsabilité morale, elle est un peu à contre-emploi dans la perspective du régime parlementaire, parce qu'effectivement, la responsabilité parlementaire a une dimension morale. Il y a un éthos du gouvernant en régime parlementaire, ça me paraît absolument évident, mais il y a une sorte d'indifférence que pointe bien la Boulet à l'opinion. Et le libéral classique à l'anglaise qu'est la Boulet sort de son chapeau, je crois qu'il est le seul, une chose assez intéressante, qui est de dire le gouvernement parlementaire c'est un gouvernement d'opinion, c'est en gros son passage de son discours page 84, vous allez vous heurter de front à l'opinion, et même si le parti conservateur marque des points dans l'élection qui fait suite à la dissolution, c'est quand même fondamentalement assez vrai. Dans le propos enfin, dans ce que je me proposais de dire à la fin de la précédente session, et que je ne résiste pas au plaisir de resservir maintenant, c'est que Philippe Loveau insistait sur le fait que le déclencheur était la question religieuse, mais je pense que le moteur qui alimente la machine de la crise, c'est la question sociale, et la question sociale au sens de la question de la société. Et que il n'y a pas chez MacMahon une idée sur comment se rallier la société. Il n'y a pas de stratégie de ce point de vue-là. Et pour moi, je pense que là, le propos de la Boulet me semble assez inspiré.
Toute petite intervention alors, parce qu'on m'a demandé la parole.
En fait, je pense que MacMahon n'est pas un chef politique. Il faut voir qu'il est dans un rôle un emploi très bizarre. Tout à l'heure, je crois que M. Chesnel rappelait à juste titre qu'il était une créature du duc de Broglie, c'est lui qui l'avait trouvé, on va dire, et c'était un peu miraculeux qu'il ait réussi à être un drapeau si longtemps. Mais c'était pas lui qui. C'est lui qui a déclenché par un coup de tête le 16 mai, mais ce serait peut-être venu plus tard, ce moment de décantation et de du dernier combat peut-être, mais au fond c'était pas lui qui était tout à fait il tenait pas tout à fait le guidon. Alors comment s'est-il retrouvé en état d'être de responsabilité, et là on revient sur le cœur de la question constitutionnelle, appelez-moi à l'ordre si je ne me trompe, mais on n'avait pas de précédent d'un régime encore indéterminé dont le sens réel n'était pas encore déterminé à ce moment-là, donc il fallait encore qu'il y ait cette crise d'adolescence de la Constitution, mais on avait un cadre parlementaire très général posé en 75 qui devait être encore déterminé. Alors on peut dire dans un sens dualisme-monisme, mais même ces deux étiquettes sont insuffisantes, il faudrait aller encore un peu plus loin. Mais on n'avait pas de précédent d'un cadre constitutionnel où est affirmé le principe de la responsabilité politique du cabinet, avec la forme républicaine. Je ne vois pas de précédent, à part donc un autre président qui est sensiblement différent, qui est la Constitution de 48, et à l'étranger, c'était des monarchies qui étaient parlementaires. Donc on ne sait pas quel est l'emploi du chef de l'État lorsqu'il fait une dissolution royale, contre-majoritaire.
Précisément, c'est le précédent de 48 dont il faut tenir compte, c'est-à-dire que dans la Constitution de 48, il est dit que le président est responsable et que les ministres sont responsables. Et il n'est dit...
Et à la fin de
ça, c'est devant qui, devant quoi ?
C'est totalement clairement et volontairement exclu lors de l'adoption de la Constitution de 1875, d'ailleurs sous l'inspiration du père même du Bedroy.
Dans une monarchie constitutionnelle et parlementaire, le legs historique anglais a apporté la technologie permettant de neutraliser la monarchie. Et la chose est quand même à peu près acquise en 1877. On sait à peu près comment neutraliser un monarque en monarchie parlementaire. Mais dans une république parlementaire, la question est tout autre. Et la question, loin d'être fermée, est ouverte par la crise du 16 mai. C'est-à-dire, c'est assez logique tout ça. C'est-à-dire, quelles qu'aient été les personnalités, il était assez plausible qu'un président de la République soit tenté de faire jouer cette idée de responsabilité devant la France, sous quelque forme que ce soit, que ça ait été MacMahon ou un autre. Et d'ailleurs, je disais ça tout à l'heure, je persiste à le penser, je pense que c'est une vraie question que pose la MacMahon. Et que De Gaulle, ensuite, ait trouvé une sorte de solution miracle au problème constitutionnel français sur des bases tout de même assez comparables, et à mon avis, pas anodin. C'est que si on était très, très, très historiciste, on pourrait dire, au fond... La Troisième République et la Quatrième République ont été des échecs parce qu'il n'y a pas eu un président fort qui était capable de bien jouer le coup et de faire jouer positivement sa responsabilité. Donc MacMahon a apporté une mauvaise réponse à une question qui était vraie.
Nicolas Rousselier voulait apporter son point de vue sur cette question de la responsabilité, sur laquelle je suis d'accord avec toi, Denis.
Oui, je voudrais apporter ma contribution tout en m'avançant dans le domaine constitutionnel et juridique. Et je voudrais aussi faire part d'une certaine perplexité. Alors, le statut irresponsable que recherchent les monarchistes et qu'ont voulu les monarchistes précisément dans le processus de discussion constitutionnelle pendant l'Assemblée nationale, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien en fait pour avoir un chef de l'État qui soit fort et non pas faible, si on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'il sera fort de la distance prise par rapport au forum parlementaire. C'est-à-dire qu'au lieu d'être politique, il sera autre chose. Au lieu d'être représentant, au lieu de représenter une politique faite dans l'Assemblée, il sera représentant d'autre chose. Donc probablement de la France, non pas de la nation assemblée, mais de la France comme entité permanente, par exemple, en termes d'intérêt militaire. Donc ça, c'est une première chose. Mais en même temps, les monarchistes finalement se trouvent dans une contradiction. Parce que cette irresponsabilité qu'aurait dû être synonyme de force, elle est en quelque sorte désarmée. Et moi, je me suis posé une question toute simple. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose quand on est un enfant de la Ve République et qu'on voit l'importance des moyens matériels en conseillers, en hommes dont dispose le président de la République. Donc je me suis posé tout simplement la question, en historien besogneux, d'aller voir quels étaient les moyens matériels qui avaient été donnés au chef de l'État à partir de 1871, dans les archives, le fonds 1AG. Et alors là, ce que j'ai découvert, peu de choses, parce que les archives ne sont pas abondantes, mais tout de même, en fait, j'ai retrouvé l'histoire, qui n'a jamais été écrite bizarrement, de combien de divisions, c'est-à-dire de quoi dispose MacMahon. en dehors des conseillers et des visiteurs du soir, donc des conseillers purement politiques, de Breuil ou d'autres. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, et il n'y a pas de débat parlementaire là-dessus, ça passe comme une lettre à la poste, les monarchistes, dès 71, et ensuite, quand il y a de plus en plus de républicains, pareil, chaque année, ont voté comme liste civile. En fait, ils ont détruit l'ancienne liste civile qui s'élevait à 25 millions de francs, pour passer à 600 000 francs plus 300 000 francs pour la représentation. Donc, et comme j'ai continué cette histoire pour... en fait, qu'est-ce que c'est que l'Élysée sous la Troisième République? Bon, j'ai continué cette histoire jusqu'à la fin de la Troisième République. Mais dans ces débuts de la Troisième République, l'Élysée, c'est une maison vide, il n'y a pas de conseiller. Le président de la République n'a pas à sa disposition ni un conseiller diplomatique, ni un conseiller politique, ni un conseiller parlementaire. Alors bien sûr, il peut recevoir à l'Élysée, c'est ce que feront les présidents de la Troisième République républicaine. Ils reçoivent, ils dînent. Mais enfin bon, il n'y a pas, si vous voulez, les moyens politiques d'une action politique. Alors, qu'est-ce qu'espéraient les monarchistes? Il faut probablement penser que les monarchistes espéraient fonder le type de pouvoir d'un Mac Mahon, chef de l'État, d'une république conservatrice, et ayant gardé un pouvoir exécutif personnel fort, donc fonder ce pouvoir sur la notion classique d'autorité, c'est-à-dire une autorité comme un flux, une autorité qui émane du chef de l'État et qui permette de renverser le contre-sens, c'est-à-dire qui permette, par exemple dans la nomination militaire, au chef de l'État d'avoir la primeur du choix des nominations militaires par rapport au président du Conseil, même s'il y a le contre-sens. C'est-à-dire que bon, le contre-sens garderait en fait sa nature ancienne. Donc finalement, le pari monarchiste peut-être reposerait uniquement là-dessus, sur l'idée que l'irresponsabilité maintiendrait une sorte de domaine réservé pour un certain type de pouvoir dans les nominations militaires, dans l'action diplomatico-militaire, peut-être. Mais c'est pas forcément grand-chose. Du côté républicain, moi ce qui me semble, c'est que les républicains veulent une irresponsabilité du président de la République, synonyme de nullité politique du président. C'est effectivement à ça qu'aboutit la crise du 16 mai. Mais ce qu'on voit du côté des républicains, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas à leur disposition un concept clair en matière de pouvoir exécutif, et surtout pas de pouvoir exécutif personnel. Du coup, à partir du 16 mai et par la suite, ce dont les républicains ne pourront pas disposer, c'est un concept et un dispositif pratique pour penser l'action d'un chef de l'État, précisément dans ces domaines qui ne sont pas l'action législative. On n'a pas besoin d'avoir un pouvoir dans le forum parlementaire. Et j'en veux pour preuve le flou qui restera jusqu'en 1914, le flou concernant les relations entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire. On connaît tous le principe général, oui, Jean-François connaît bien ça, on connaît tous le principe général libéral et républicain que le pouvoir civil prime le pouvoir militaire, mais finalement ce principe républicain ne sera jamais organisé. C'est-à-dire que concrètement, jusqu'en 1914, il n'y aura jamais à l'Élysée, ni d'ailleurs du côté de la présidence du Conseil, il n'y aura, la présidence du Conseil, sauf erreur de ma part, ne prend jamais le ministère de la guerre jusqu'en 1914. Donc il n'y aura jamais de manière organique quelque chose qui permet au pouvoir civil, en fait, d'avoir un moyen concret et pratique de primer le pouvoir militaire. Du coup, en 1914, il y aura la dictature du grand quartier général, en tout cas pendant quelques mois. Si bien que en France, enfin, ce qui se passe dans la crise du 16 mai, c'est qu'il y a toujours ce chef de l'État, il est irresponsable, et du coup, il n'y a pas du tout ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis. On voit que, si on prend le livre classique de Schlesinger sur la République impériale, on voit qu'à partir de Lincoln, il y a la construction d'un pouvoir du chef qui est reconnu au chef de l'État, notamment en matière militaire, qui est à la fois un principe et une organisation. Donc il y a des moyens concrets, des attributions et une pratique, un habitus institutionnel qui est pris en faveur du président des États-Unis, même si il y a un combat permanent avec le Congrès. Donc en France, il n'y a rien de cela qui se passe. Et pour terminer, je dirais aussi que la crise du 16 mai, du point de vue de cette question du pouvoir exécutif et de sa responsabilité, pour les républicains, donc ils ont réussi à nullifier le président de la République, mais finalement, ça n'est qu'un passage de relais dans la problématique que vous avez évoquée au tout début de la session, enfin plutôt au tout début du séminaire, sur la question du pouvoir exécutif, cette fois-ci au milieu du Parlement. donc la question du président du Conseil et de l'instabilité ministérielle, qui est très peu évoquée dans cette crise-là, pratiquement jamais dans la centaine de pages que nous avons lues, mais qui est quand même là, vous l'avez rappelé, il y a déjà eu 3 ministères. Jules Simon était lui-même un ministre faible, et ce que lui reproche MacMahon dans le premier texte n'est pas faux du tout, c'est-à-dire, vous n'êtes pas capable de défendre ce dont on a parlé en Conseil des ministres, et ça c'est constitutionnel, mais finalement, dans l'absolu, vous n'êtes même pas capable de défendre vos propres idées. Donc là, il met le doigt sur le problème à venir, la forme à venir du problème du pouvoir exécutif, qui est donc de ne pas être un directeur des travaux parlementaires. Donc finalement, la crise du 16 mai, c'est aussi ce passage de relais entre l'ancienne problématique du pouvoir exécutif, côté chef de l'État, et puis la nouvelle problématique côté parlementaire. Enfin, c'est comme ça que je...
Est-ce que je suis pas sûr d'avoir bien... Enfin, d'avoir tout à fait compris, mais si je comprends bien ce que vous dites, en gros, faute d'avoir suffisamment de moyens institutionnels, matériels, etc., le chef de l'État, pour exister, n'a pas d'autre choix que d'invoquer sa responsabilité parce qu'il n'a pas les divisions derrière, c'est ça, hein,
non, il ne peut pas invoquer sa responsabilité parce qu'on retombe de Caribe dans Silla, à ce moment-là, il tombe dans l'accusation républicaine de jouer un mécanisme de responsabilité politique alors qu'il ne représente, pas le souverain, puisqu'il n'est pas élu.
Oui, très simplement. Il n'a pas les moyens, aussi parce qu'il n'a pas les pouvoirs. Je veux dire, c'est assez simple. La Constitution ne lui attribue pas les prérogatives, type article 19, ou chose comme ça,
S'il a le cabinet qui contresigne,
c'est
lui, le pouvoir exécutif, c'est lui. Il n'y a pas de président du Conseil sur le papier.
Il y a quand même des attributions. Il y a des attributions qui auraient pu avoir un signe, qui auraient pu tourner en. C'est ce qu'on appellera après la magistrature morale du président de la République, qui, à mon avis, en fait, un peu.
Non, ça, c'est une question des lois
rhétoriques pour le président de la Troisième République républicain, mais quand même que Poincaré. Moi, dans mon histoire de la transformation du pouvoir exécutif, c'est en fait là où commencent les choses. Avec Poincaré, il y a clairement un projet de transformer ces attributs qui sont devenus inutiles, des armes sans cartouche, et on voit que Poincaré, avec les mêmes attributs, sans changer la Constitution, en faisant bien attention à ne jamais parler de révision constitutionnelle, Poincaré essaiera justement de renverser ce flux, c'est-à-dire de reprendre les mêmes attributions et d'avoir un vrai pouvoir, par exemple en matière diplomatique et si possible,
et de défense, oui. Sachant que le président jouait quand même un rôle important, malgré la constitution Grévy, on sous-estime beaucoup la nullité du pouvoir présidentiel sous la Troisième.
En matière diplomatique, mais en matière de...
Mais même en matière diplomatique, dans les recherches que j'ai faites, ce qu'on attribue par exemple à certains présidents de la Troisième République, même par exemple à commencer par Grévy, puis ensuite à d'autres, par exemple pour l'Alliance russe, ça tient pas la route, en fait. C'est plus des moments extrêmement ténus, mais ils ne sont pas capables d'une politique continue. Ça, c'est le ministère de la guerre, c'est le Quai d'Orsay.
Mais un point sur lequel Alesi insiste très fort, c'est le fait que, quand il s'est agi de déterminer quel serait le mode de désignation, personne, absolument personne, n'a discuté le fait qu'il soit élu par les deux chambres du Parlement et n'a suggéré un système qui aurait pu être celui de 1958, au fond, un collège électoral élargi. Donc là, il y a, de façon instinctive, et non pas voulu forcément, mais de façon instinctive, l'idée qu'il soit d'emblée une créature du Parlement. Ce qui n'était pas le cas de MacMahon, mais après, forcément, il le devenait. Et le choix de Grévy ne fait que confirmer. On choisit comme président quelqu'un qui ne voulait pas de président, qu'il avait manifesté à deux reprises successives en 1948 et en 1961.
Il avait déjà changé d'avis.
Donc, il avait peut-être changé d'avis, mais enfin, n'empêche que non seulement il ne veut pas de président, mais en plus, il ne veut pas de pouvoir exécutif, puisque quand il doit nommer un président du Conseil, bien loin d'aller chercher le leader de la majorité qui pourrait être le chef de l'exécutif, il va chercher un second couteau. Et à partir de là, eh bien, les carottes sont cuites, si je veux.
Je pense qu'il n'y a pas eu de vraie réflexion sur le pouvoir exécutif dans les débats de 75, et c'est aussi leur côté très instrumental et transactionnel qui occupait le devant de la scène. Il n'y avait pas de modèle pensé disponible, parce que les monarchistes et ceux qui étaient devenus républicains, mais qui étaient prêts, à part le titre république, à céder, enfin, d'accord presque sur tout, transposait, sans aller chercher plus loin et en oubliant les contradictions qui allaient un peu éclater en 77, le modèle du roi. Et donc, c'est l'Assemblée qui a élu le président en 71 et puis Mac Mahon. C'était naturellement les deux chambres qui allaient élire son successeur. Je crois que là, il y a un effet un petit peu de prolongation. À un moment, ils avaient espéré prolonger l'esprit de l'Assemblée avec un Sénat forteresse. Et je crois que le duc de Breuil écrit vers la fin de sa vie un petit essai sur la Constitution de 75. Et il revient sur la question du mode d'élection en disant... pouvait pas, et même après coup, en y réfléchissant, faire élire le président au suffrage universel, ça aurait été totalement absurde. Il n'y avait en gros de solution que par l'élection, par les chambres.
Alors, je vais donner la parole à Ranali.
Je voudrais dire un certain nombre de choses plus générales. La première, c'est qu'on n'est plus dans un régime monarchique. On est dans un régime parlementaire. On n'est même pas dans des perspectives monarchiques. Et c'est une différence énorme avec tout ce qui précède. La deuxième chose, c'est que je voudrais évoquer la question de la légitimité politique, qui est centrale. Elle n'est pas inscrite dans les textes, mais toute la logique et la dynamique de 89 peut être réduite à un conflit de légitimité et qui ne fait que radicaliser, radicaliser jusqu'à ce qu'il soit tranché au propre et au figuré. Le problème de Mac Mahon, c'est d'abord un problème de légitimité. Il est face à une assemblée qu'il est en train de dissoudre et un gouvernement qui l'a fait démissionner et qui sont issus du suffrage universel. Lui est issu de l'élection de cette assemblée qu'il est en train de dissoudre. Ça pose un problème de légitimité et c'est un pari. Lui et ceux qui le conseillent, parce que vous avez posé une question légitime sur les motivations de Mac Mahon. En fait, Mac Mahon, il est très difficile dans cette affaire de le séparer du groupe qu'il influence, qu'il pousse, si j'ose dire, à l'acte. Et il est très difficile aussi d'imaginer ce qu'il voulait obtenir avec cette dissolution, quelle était la perspective politique de cet acte. Particulier, on a des exemples récents, des dissolutions dont on espérait beaucoup et dont on ne voyait pas très bien à quoi il pouvait rimer. Mais il a au départ déjà un problème de légitimité. Et c'est un problème de légitimité que ses adversaires, avec beaucoup de doigté, sans le mettre personnellement en cause et sans mettre en cause sa fonction, vont exploiter au cours des débats et qui suivent. Et peut-être je m'arrêterai là pour laisser les autres.
Christophe Schoenberger.
Je suis un peu intrigué par un problème général. Le problème général serait qu'est-ce qu'un chef d'État dans un gouvernement parlementaire ? Et je crois que c'est un problème général que rencontre la France à ce moment-là, pour la première fois, mais dans des circonstances particulières. Mais c'est un problème plus général. Il y a plusieurs virtualités de la présidence, même dans un gouvernement parlementaire. Et je pense que le débat français à l'époque n'ouvre pas toutes les perspectives, toutes les virtualités d'une telle présidence. Parce que les Républicains sont tellement obsédés par l'idée que ce serait nécessairement une sorte de pouvoir monarchique, donc il fallait de toute façon priver le président de toute possibilité, et le camp inverse est encore de la nostalgie de la monarchie. Donc du coup, il y a une sorte de vide, le vide de la présidence dans un gouvernement parlementaire, qui n'est pas encore, qui doit être rempli d'une certaine manière, et les virtualités sont là, mais elles ne sont pas encore explorées. C'est lié aussi à la question de l'élection, mais il y a beaucoup d'autres sujets qui entrent. Et il n'y a pas une solution facile à tout cela. Et il y a un lex monarchique presque nécessaire dans la présidence de la République, des Républiques. Parce que cette position-là, elle a été inventée sur le modèle des monarques, même des monarques parlementaires. Elle ne peut pas être pensée sans l'idée même de la monarchie, disons à l'anglaise au moins. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et on voit ça encore dans le monde d'aujourd'hui, où il y a beaucoup de présidences quand même très différentes, avec des, qui se combinent avec beaucoup de possibilités avec les gouvernements parlementaires. Donc je me demande, est-ce que la crise du 16 mai ne doit pas être aussi pensée dans cette perspective générale-là, sans négliger bien sûr toutes les circonstances très particulières dans lesquelles s'est déroulé le débat à l'époque.
J'ai pas normalement vocation à trop intervenir, mais là j'en éprouve le besoin. Il me semble que peut-être que l'un des mystères de cette crise du 16 mai, c'est qu'on n'est précisément pas seulement dans une problématique des deux camps et de la transposition républicaine de la figure monarchique. Est-ce que c'est possible, comment, à quelles conditions, etc. Il y a un troisième larron qui s'invite dans le débat ou qui est convoqué dans le débat par la droite, et ce troisième larron, c'est la figure bonapartiste du chef d'État, qui est complètement différente. C'est d'où la question de la que j'essaye de soulever depuis tout à l'heure, de la responsabilité. Hein. Et il me semble qu'il y a un mystère. Pourquoi ? Parce que en 1875, on se met d'accord quand même, si j'ai bien compris, assez largement, notamment pour éviter un regain possible de l'idée impérialiste. C'est d'ailleurs dit dans les discours. On s'est mis d'accord contre le risque d'un retour à l'Empire, qui donc est un repoussoir absolu pour les deux camps à ce moment-là. Et c'est ça qui, à mon avis, constitue un vrai mystère. Qu'est-ce que fait le camp Breuil au moment de la crise du 16 mai? Eh bien, reprendre une thèse de la responsabilité du chef de l'État, de la confrontation de l'ordre contre le chaos, du risque de survie des institutions, de la question de confiance du chef d'État au peuple, etc., qui sont directement issus de la symbolique, enfin de la vision constitutionnelle impérialiste. C'est ça, à mon avis, enfin à mon sens, ce grand mystère de la responsabilité. Peut-être brièvement, Christophe, et puis après Ram.
D'accord. Donc brièvement, je crois que par exemple, on aurait pu imaginer un président qui aurait servi de caution à un exécutif plus parlementaire. Disons un peu à l'anglaise, là où par exemple le droit de dissolution n'est plus très, très clairement attribué ni au monarque ni au premier ministre, il est entre les deux, il joue plutôt dans la logique d'un gouvernement parlementaire, d'un exécutif parlementaire.
Ça
reprend un peu le thème de Nicolas Rousselier, je crois aussi, non? Donc là, il y a une virtualité, je crois, il ne faut pas limiter ça à une logique bonapartiste ou William Saint-Pierre. Il y a beaucoup plus de virtualité de la présidence et elles ne sont pas encore explorées à ce jour-là.
15 secondes à ce que dit Christophe. Le thème de virtualité me plaît beaucoup parce qu'en fait, l'une des virtualités les plus inattendues qui va réapparaître dans la pratique de la présidence sous la Troisième République, c'est quelque chose qui rejoint ce que Jean-François Chanet a dit tout à l'heure sur Mac Mahon, ce sera l'utilisation des voyages, qu'on a beaucoup moqué, qu'on a beaucoup raillé, mais en fait, ça va être l'une des modalités d'une réapparition politique du président dans le fonctionnement de la Troisième, qui n'est pas donc fixe et qui évolue. J'avais étudié cette question-là, et on voit qu'il y a un usage politique, et non pas du tout anodin, que d'eau, enfin des voyages sans intérêt, inauguration de chrysanthème, pas du tout. Il y a une histoire, en fait, de l'instrumentalisation politique des voyages du président qui s'accentue au fur et à mesure qu'on va vers 1914, qui commence vraiment à être explicite avec Poincaré, et ça n'étonnera personne, qui est aussi très forte avec Millerand après la Première Guerre mondiale. Et cette virtualité qui devient une réalité permet justement le réarmement, certes pas génial et spectaculaire, mais le réarmement de l'Élysée. C'est qu'à partir de cette fonction d'organisation du voyage, il y a une vraie structure qui se met en place à l'Élysée, qui n'est pas encore une structure capable d'influencer, par exemple, les processus décisionnels en matière militaire et diplomatique, mais qui quand même existe à partir des années 1890.
La méthodologie du gouvernement parlementaire que donne l'Angleterre, je veux dire, à la date de 1877, je vais dire une énorme banalité, mais elle inclut pas le suffrage universel. Et c'est quand même une énorme différence. C'est une énorme différence. Et je pense qu'elle est pas saisie par Mac Mahon et par la droite, qui sous-estiment très fortement cette dimension-là de la chose. Il y a quelque chose qui a attiré mon œil de l'historien amateur du régime parlementaire, c'est cette thématique du Sénat juge de la dissolution. le Sénat comme organe ayant une fonction judiciaire ou juridictionnelle. Ça, c'est assez fascinant. Et Béranger, qui a fait aussi un des très bons discours de la lecture, il y a un truc très bien, c'est « Vous êtes juge aujourd'hui, vous serez jugé demain ». C'est très très bien. Parce que c'est un petit peu ce que la droite perd de vue, à la fois peut-être par l'inclination bonapartiste qui est « Tout ça est manipulable et un bon plébiscite nous résoudra le problème », et puis par le côté, la touchante naïveté du maréchal de MacMahon. Enfin, je veux dire, on a tous lu ça dans nos manuels, mais mon gouvernement vous désignera parmi les candidats ceux qui seuls pourront s'autoriser de mon nom. S'il y avait eu les guignols à l'époque, ça... Et pourquoi croit-il en ça? Parce qu'il le dit dans les lignes qui suivent, il y a le principe d'autorité. Et le truc que le suffrage universel en France, et ça remonte effectivement au fait qu'il est là depuis la Constitution montagnarde et puis après 1848, rend absolument impossible et qui a été une huile importante dans les rouages du régime parlementaire britannique, c'est la déférence. Et il y a eu la déférence qui a fait que, c'est des grandes histoires dans les romans de Trollope, c'est que effectivement, l'aristocratie désignait des élus à son bon peuple, le bon peuple pendant un certain temps a joué le jeu, en France, ça, le programme de Belleville et tout, ça va pas le faire. Et ça, je crois que c'est une confrontation de deux conceptions de la légitimité, le principe d'autorité d'un côté et le gouvernement d'opinion de l'autre.
La question centrale ici, évidemment, c'est celle de la dissolution. Et celle de la dissolution n'est pas décidée dans les textes de 75. Elle est laissée ouverte. Et donc, c'est par une épreuve politique qu'ils essayent de décider ou de donner un contenu aux modalités de la dissolution. Et les raisons qu'il donne sont des raisons effectivement naïves. Quand il dit « J'ai dû déclarer au pays quel dissentiment existait en la Chambre des députés. Et moi, raison suffisante pour envoyer le gouvernement et ensuite de dissoudre. » Or, c'est sur ce droit de dissoudre ou le contenu de ce qui peut amener un président de la République de dissoudre, c'est ces termes-là qui n'ont pas été précisés, et qui ne seront d'une certaine manière arrêtés par les élections qui vont suivre cette dissolution. C'est-à-dire tout un ensemble de dispositions qui n'ont pas été prévues en 75 et qui laissent ouvertes d'une certaine manière, qui sont ouvertes à des interprétations. Et je dois dire que dans le débat constitutionnel qui suit la dissolution que nous avons devant nos yeux, les arguments du camp conservateur sont des arguments très faibles, parce que c'est des arguments qui relèvent de l'appréhension politique, ou ce sont des arguments politiques auxquels le camp républicain oppose des arguments constitutionnels qui sont imparables. Je t'ai frappé, et De Breuil, et même Paris, invoquaient le radicalisme latent, l'extrémisme du camp républicain, sans entrer dans la question vraiment constitutionnelle, ou dans une interprétation constitutionnelle de cet enjeu. Et là-dessus, ils sont battus en brèche par un orateur après l'autre, tout au long de ce débat. Et celui qui leur vraiment cloue le bec définitivement, c'est Lamoulay. Il répond même à leur préoccupation, à leur appréhension personnelle. Il leur dit les peurs du ministre sont réels, mais les remèdes sont d'un autre âge. C'est-à-dire, il nie pas qu'il peut y avoir des peurs, mais c'est l'encadrement politique et le vote parlementaire qui en décide. Et là, on est dans une confrontation d'arguments qui sont qui appartiennent à deux registres différents et qui consacrent d'une certaine manière, avant même les élections, le naufrage de cette initiative.
Peut-être y a-t-il l'argument constitutionnel, me semble-t-il, le plus clair dans ce discours, c'est le risque du régime conventionnel. On l'invoque lui-même dans le message auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, mais qui est peu crédible, et qui ne le serait que s'il y avait un vrai risque révolutionnaire. Et comme dit, je ne sais plus qui dit ça, je crois que c'est Ferry, il dit « la France n'a plus peur ». La France n'a plus peur et c'est pour ça que ça ne va pas marcher. Peut-être pour aller... Alors, Armel voulait intervenir et Jean-François Chanet, si j'ai bien compris. Je ne sais plus trop dans quel ordre.
Je vais essayer d'être rapide. Sur Denis, une petite nuance à ce qu'il a dit tout de même. On est après, en 1877, on est 10 ans après la deuxième réforme électorale. Et dans ces années-là, il y a tout de même quelque chose qui se met en place, Disraeli contre Gladstone, et c'est quand même à cette époque que Gladstone démissionne, c'est le premier Premier ministre à démissionner après une défaite électorale sans attendre la réunion de la nouvelle Chambre. Donc on est déjà un peu, et Ostrogorski l'avait noté, dans une logique qui est presque, c'est avant, c'est pas encore le suffrage universel, mais c'est déjà plus le monde de l'avant et même de l'entre-réforme acte.
Donc c'est quand même. L'alternance sur la base de la discipline partisane, c'est pas la même chose que
Et d'un corps électoral qui n'est plus complètement.
1867, c'est encore vraiment pas grand-chose. Il faut attendre 1884 et surtout 1918.
Et Bejot, qui est contemporain de ces événements-là, dit il n'y a plus de déférence, la déférence disparaît. Donc je pense que là, tu.
C'est parce qu'il en a peur, il le dit très tôt. Il en tremble dès qu'il commence à
écrire.
Enfin bon. Ensuite, pour revenir sur la question constitutionnelle, Carleux, je pense qu'il ne faut pas méconnaître le fait qu'il y a beaucoup de rhétorique dans ces débats-là. Nous sommes ceux de 89 contre vous de 93. Il y a le danger de glissement vers la République conventionnelle. Tout ça, ce sont des arguments rhétoriques, alors qu'on est dans un combat d'abord politique. Donc il ne faut pas toujours attendre une rationalité parfaite. De ce point de vue-là, effectivement, on a un Laboulaye, éventuellement un Renault ou un Béranger qui essaye de structurer. Parfois, Ferry aussi essaye d'avoir une argumentation d'avocat, de juriste. Mais bon, c'est quand ça marche bien, c'est très bien, mais ce n'est pas essentiel.
Pardon.
Je casse pas pire que Cassagnac.
Mais héros, c'est Cassagnac. C'est
celui qu'on a le plus c'est Cassagnac qui interrompt tout le temps. Il est très, très drôle.
Mais comme disaient plusieurs orateurs, je ne me laisserai pas détourner de mon propos par vos interruptions. Donc, je pense qu'il faut beaucoup filtrer dans ce débat-là ce qui relève vraiment de l'argumentaire, et puis on joue avec des références historiques, mais je dirais, il ne faut peut-être pas toujours les prendre au pied de la lettre. Ensuite, je suis d'accord qu'il n'y avait pas de plan politique profond dans tout ça. Il n'y avait pas de plan clair sur ce qu'était la présidence qui réagisse ainsi par ce coup, parce que MacMahon n'est pas un leader politique, il n'a pas de conception constitutionnelle très nette, et il a fait ce coup avant même que ses conseillers, notamment De Breuil, aient pu lui dire « c'est là qu'il faut jouer ». Donc, on glisse à un moment sur le débat « la responsabilité du président est engagée », et on sait que ce n'est pas De Breuil qui a dicté la lettre du 16 mai au matin. On ne sait pas, d'ailleurs, je crois que les historiens n'ont pas trouvé quelle serait la personne qui a dicté. Est-ce que MacMahon, par une inspiration personnelle, a utilisé cette formule de la responsabilité contre la France? Mais il n'y a pas, dans la pensée des orléanistes de type Breuil, et même en 75, il n'y a pas vraiment de pensée très aboutie sur le rôle du chef de l'État qui, éventuellement, fait jouer le droit de dissolution. Alors, on peut se référer tout de même intellectuellement à une des références classiques de ces gens-là, c'est Prévost-Paradol. En 68, qui distingue la dissolution royale de la dissolution ministérielle, il fait comme si son modèle est à peu près applicable tant à une monarchie constitutionnelle qu'à une république qui est un peu celle qui va être bricolée en 75. Et il y a aussi beaucoup d'ambiguïté. Pourtant, chez Prévost-Paradol, c'est très clairement un gouvernement parlementaire, au sens que c'est le cabinet et le président du Conseil qui est le patron qui tient le guidon, et le chef de l'État est la source d'autorité, la génératrice d'autorité. Et ça peut être bien que la dissolution soit faite à la demande du ministère parce qu'il a une difficulté avec la Chambre, mais ça peut être bien que dans certains cas, le cabinet étant trop faible ou la Chambre n'étant pas en harmonie avec le pays et le cabinet n'ayant pas forcément de position claire là-dessus, c'est le chef de l'État qui est le juge de cela. Mais il ne le fait pas pour lui-même. Et je crois que souvent, je pressens que tu cherches des pistes bonapartistes là où il ne faut pas les chercher, en ce sens que, pas plus pour Prévost-Paradol et son modèle un peu cohérent, la dissolution royale était faite pour que le roi ou le président qui est substitué roi gouverne par lui-même, mais c'est toujours pour le cabinet avec lequel il est en harmonie. C'est un peu Guizot et Louis-Philippe. Et de même pour MacMahon, dans ce cas concret, MacMahon ne voulait pas dissoudre pour pouvoir enfin gouverner au lieu d'un pseudo-régime d'assemblée qui évidemment n'existait pas, il n'y avait pas de danger à enfin, le problème n'était pas vraiment là, c'était pour remettre en scène un cabinet qui serait de sentiments politiques et avec un vague projet conservateur peu défini, et je dirais il aurait été ravi de redonner les clés du pouvoir au duc de Broglie, qu'il avait d'ailleurs exercé sous l'autorité du maréchal entre 73 et 74, mais les vraies décisions politiques, elles étaient prises par de Broglie, pas par MacMahon, et c'était pas le projet de MacMahon de gouverner par lui-même.
Mais sauf qu'un Louis-Philippe, à mon avis, ne dissout pas en disant « je vais vous désigner les candidats qui peuvent s'autoriser de
prononcer ».
Non, ça c'est quand même complètement autre chose, c'est tout ce que je voulais dire.
Mais là, d'accord sur
le... Mais il a le droit de dissolution.
Oui, mais...
Et il voulait gouverner, lui, Louis-Philippe.
Avec une portée tout à fait différente. Jean-François Chenet.
Justement, pour revenir une dernière fois sur la comparaison entre MacMahon et Louis-Napoléon Bonaparte, et entre 77 et 51. En 51, n'oublions pas que le coup d'État consiste à rétablir le suffrage universel.
Oui.
Et à s'appuyer sur lui pour obtenir, par le plébiscite, l'approbation du coup d'État. Mais n'oublions pas aussi, c'est ce dont Philippe Séguin créditait dans sa biographie Louis-Napoléon le Grand, créditait le prince président. En oubliant un peu ce mot que rapporte Adrien Dansette, qui était « Je veux bien être baptisé à l'eau du suffrage universel, mais je ne veux pas vivre les pieds dans l'eau. » Le problème de MacMahon, c'est qu'il est obligé de vivre les pieds dans l'eau. Il est les pieds dans l'eau. C'est-à-dire que lui n'a pas de suffrage universel à rétablir, il a à l'utiliser, et à l'utiliser à contre-temps et maladroitement.
J'aurais une toute petite chose par rapport à ce qu'a dit Armel et ce que vous avez dit, monsieur Alevich. Peut-être que plus encore que la dissolution, ce qui a été l'arme centrale, et Laboulay le dit bien, c'est la prorogation. Parce qu'il dit bien qu'en fait, ce qui est scandaleux, c'est la rupture de l'esprit parlementaire, donc de la convention constitutionnelle plus que de la constitution. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui cloche, c'est que le nouveau cabinet ne s'est pas présenté devant la Chambre et n'a pas permis une interpellation sur la politique générale du nouveau cabinet pour donner la confiance ou ne pas la donner. Autrement dit, l'acte de MacMahon n'a pas été de rechercher un cabinet qui aurait une meilleure assise parlementaire. Alors là, et d'ailleurs ça permet à Laboulay de dire que le droit de dissolution dans l'absolu reste valable, mais à condition qu'il soit pratiqué de manière parlementaire.
Mais parce qu'on est dans une dissolution de combat, et ça a été la grande maladresse, évidemment, de tirer le premier, au fond. Mais au fond, Philippe me contredira, mais dans l'Europe de cette époque-là, ça pouvait se faire. C'est-à-dire,
en Angleterre, je crois.
Absolument.
Même si
la prorogation est toujours. Oui. Mais c'est le prélude des dissolutions, mais par exemple, dans le cas de 1742, c'est toujours un petit peu quand même un 1742 quand oui. Le gouvernement Carteret. C'est
la
fin de Walpole et la nomination du gouvernement Bast. C'est toujours un peu faible. Si on doit proroger, c'est précisément qu'on ne veut pas représenter son ministère devant l'Assemblée, parce que c'est un ministère uniquement royal. Et qu'on sait fort bien qu'il n'y a pas encore un parti derrière pour lui donner une majorité. Je referme là, sinon
c'est
4h du matin.
Ça disparaît quand même.
L'usage de la prorogation ?
Oui, ce type de dissolution.
Il y a deux grands moments où le monarque pense qu'il peut encore avoir un gouvernement de sa majesté qui est autosuffisant, qui procède de manière autosuffisante de sa confiance, c'est 1742-1744, et ensuite le début des années 1760. C'est déjà perdant comme stratégie dans les années 1700, avec ces gouvernements minoritaires. Et ça c'est complètement explosé, si vous me pardonnez l'expression, des Georges III, tout le règne de Georges III.
Il y a le gouvernement.
Cela dit, institutionnellement, vous retrouvez ce schéma au moins informel avec la dissolution en Australie en 1975. Il y a un gouvernement minoritaire, il y a une prorogation.
Une prorogation,
Donc
c'est un instrument du gouvernement minoritaire. Oui.
Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'on pouvait se poser la question, la lettre du 16 mai n'étant pas contresignée, il fallait d'abord, ça n'était pas réglé. Je crois que ça, c'est l'usage des mécanismes dualistes avérés.
En revanche, la nomination du cabinet de Broglie est contresignée, parce que dans le système de transition précédent, MacMahon avait eu le droit de nommer trois ministres de son propre chef. Et il y avait le duc de Cazes parmi les trois. Et c'est le duc de Cazes qui va contresigner la nomination du duc de Broglie comme succédant à Jules Simon.
Et il aurait il y a pu contresigner la lettre.
Un mécanisme que on retrouve ça sous Weimar, enfin, on a déjà parlé de ça. Mais, ouais.
Est-ce qu'on s'accorde encore un tout petit peu de temps, peut-être
Les grilles vont fermer, non
ça, ça peut nous guetter, oui.
J'aurais bien aimé qu'on parle un petit peu de ce régime conventionnel, régime d'assemblée, mais tant pis. Et encore une fois, merci à tous, merci aux intervenants et merci au public.